Je peux attendre. Donc nous allons continuer avec la petite mini-série sur les vraies et les fausses conversions. Mais on va lire ensemble, si vous voulez bien, si vous avez la Bible avec vous, Romains 7, au verset 1. Romains 7. Ignorez-vous, frères et sœurs, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime de nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses cette parole. Seigneur, que nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous dire sur les vraies et les fausses conversions. Et Seigneur, que nous puissions vivre en te rendant gloire et en étant, Seigneur, ces enfants de lumière que tu veux que nous soyons. Oui, bénis s'il te plaît ta parole ici et partout dans le monde pour ta gloire. Amen. Le verset va surtout, la prédication va surtout porter sur le verset 4 et je le relis une deuxième fois. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Un jeune homme roule dans sa voiture. Alors il roule vite. Il roule à 150 km/h. Il n'y a pas de loi. C'est tout à fait légal. Tout à coup, il y a une loi qui est d'un jour à l'autre qui est mise en place. Et cette loi, elle dit, elle stipule, maintenant on a juste le droit de rouler à 70 km/h. Mais cet homme, ce jeune homme, continue à rouler à 150 km/h. Il est clairement en infraction, hein, 80 km/h en trop, c'est quand même pas mal. Et en fait, voilà, la police le prend, et en plein délit, et lui impose une amende de 6000 euros. Une amende très, très sévère. Ce jeune homme n'a pas d'argent. Et aucun mot pour se défendre, aucune excuse. Et donc, il est envoyé en prison, amené en prison, pour subir donc sa peine. Pas d'espoir, pas d'excuse, et pas de possibilité de payer donc cette dette. Un jour, son père lui rend visite, entre donc, et lui dit, « Mon fils, je sais que tu es coupable, mais parce que je t'aime, j'ai vendu tout ce que j'avais. Et maintenant tu peux sortir, tu es libre. » Quelle est maintenant l'attitude de ce jeune homme envers la loi? Eh bien, il est mort à la loi. Il est mort à la conséquence de cette loi, c'est-à-dire de devoir passer longtemps en prison, et justement parce que l'amende a été payée. Son père a payé l'amende. Et donc maintenant, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Et qu'est-ce que maintenant l'attitude de ce fils envers son père? En pensant au sacrifice de son père, ce jeune homme est rempli de gratitude, d'un sentiment profond de reconnaissance. Quand il voit l'amour de son père, de ce qu'il a fait pour lui, il est touché profondément. Et maintenant, donc, il décide de vivre différemment. Il portera le fruit d'un autre style de vie. Il ne voudra pas continuer comme il a fait jusqu'à maintenant. Il veut maintenant rendre plaisir à son père. Il ne veut pas encore faire subir à son père de payer à sa place, d'enfreindre la loi. Donc, il ne veut plus enfreindre la loi. Notre passage dit que mes frères, vous avez, et sœurs donc, vous aussi, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité des morts. Et donc, c'est écrit, c'est par le corps de Christ. Comment dit le texte exactement? Vous avez été mis à mort, oui, par le corps de Christ. Et ici, nous avons le sacrifice du Père. Il a donné le corps de Christ, qui a été meurtri à notre place, nous le savons. Et là, nous voyons, et là, vous pouvez voir l'amende, cette dette que Dieu a payée à notre place. Et quel grand prix Dieu a voulu payer, et quel amour quand nous regardons vers ce que Christ a fait, vers ce que le Père a fait pour nous. Donc la loi n'a pas de pouvoir sur le chrétien. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La condamnation a été faite. La loi n'a plus de pouvoir parce que le Père a payé l'amende pour nous. Et on ne subit pas deux fois la même peine pour un crime commis. De même, le crime du chrétien est porté par Christ. Nous ne pouvons pas subir ce qui a déjà été porté. Et l'Écriture donc dit ici que nous appartenons à un autre. À qui appartiens-tu ce matin? Appartiens-tu à cet autre, à Christ? La Bible dit que le chrétien appartient à celui qui est ressuscité d'entre les morts, donc Christ. Et la parole dit ici, dans ce verset-là, que nous serons mariés à un autre. Alors d'où est-ce que je tire cette information? On le voit au mot « afin que vous apparteniez à un autre ». Donc l'appartenance, c'est dans le mariage. L'un appartient à l'autre. Et les versets 1 à 3 aussi nous montrent vraiment cette idée du mariage qui est là, où Paul nous explique que la loi, et nous l'avons lu tout à l'heure, n'a que le pouvoir aussi longtemps que les deux époux sont vivants. À la mort d'un des deux époux, celui qui reste vivant, il est libre de se marier à nouveau. Donc la loi n'a plus de pouvoir. Donc Paul utilise ici vraiment cette image du mariage. Et un chrétien est mort à la loi, et comme il est mort à la loi, il peut appartenir maintenant à Christ. Et en tant que chrétien, nous sommes donc mariés à celui qui est ressuscité, à celui qui est vivant, et celui qui est vivant à jamais. Et quelle est la conséquence de ce mariage entre celui qui est mort à la loi et donc Christ? La conséquence est que nous portons du fruit. Et en fait, ici, c'est intéressant à voir, il y a ici l'image de l'union entre un homme et une femme qui se fait donc dans le mariage, et de cette union qui a pour fruit donc un bébé. Et donc Dieu utilise ici, nous avons ici cette image qui est utilisée, et Dieu crée dans le chrétien un enfant, un bébé. Cette image souligne une chose, et c'est vraiment très important que nous comprenions ça, parce que le reste aussi du message va construire là-dessus. Donc écoutez bien, s'il vous plaît. Un chrétien ne s'efforce pas, de manière acharnée, à produire ce fruit, à produire ce bébé. Dieu le crée en lui. Sans l'aide de Dieu, le fruit est une totale, vraiment totale impossibilité. Alors donc, quels sont ces fruits dont nous parle Dieu dans ce texte, ou en général dans la parole. Alors il y en a beaucoup, beaucoup, on va juste en citer quelques-uns de ces fruits. Il y a par exemple le fruit de la conviction du péché. C'est pas dans notre texte, mais on le voit dans d'autres passages de la Bible. Par exemple au psaume 51:19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. » Il y a aussi le fruit de la repentance. On le voit en Matthieu 3, verset 8. Et si tu es sauvé, tu verras des signes de repentance. Et il y a ici un verset clé, c'est en Luc 19, 8. « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Donc c'est Zachée qui parle ici, qui a été pardonné, et qui, par reconnaissance, et parce qu'il se rend compte, il veut réparer aussi le mal qu'il a fait, ben il donne avec joie. Et donc ça caractérise le chrétien, il donne avec joie, aussi par reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Et par rapport à cette réaction de Zachée, qui existe aussi dans les chrétiens donc, nous voyons aussi le fruit des bonnes œuvres. Et Jésus dit en Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ou encore en 1 Jean 3, verset 23, « Et c'est ici le commandement, donc son commandement, le commandement de Christ, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » Et nous avions déjà vu dans la dernière prédication que oui, l'amour est un de ses fruits aussi. Et à travers cet amour, donc, il y a des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu crée en nous. En Colossiens 3, verset 15, nous voyons aussi le fruit de la reconnaissance. Et c'est vrai, c'est réellement vrai. Quand on voit la croix, quand on regarde à ce que Dieu a fait pour nous, à cette grande œuvre que Dieu nous a sauvés. Et quand tu vois ça personnellement, tu ne vas pas pouvoir faire différemment, autrement, que de t'écrier « Seigneur, merci !» Merci parce que tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. En Galates 5, verset 22, nous voyons aussi le fruit de l'Esprit. Celui qui est sauvé, il montrera ce fruit, peut-être pas de manière parfaite, mais ce sera quand même là. Et c'est décrit donc en Galates 5, verset 22. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça caractérise le chrétien et c'est le fruit que Dieu place en lui. Alors il est vrai, et ça complique un peu les choses, qu'on peut copier ces fruits. Il y a des faux fruits qui ressemblent peut-être de l'extérieur pas mal aux vrais fruits. La repentance, les bonnes œuvres, la reconnaissance, le fruit de l'esprit, on peut copier ça d'une certaine manière. Mais quelle est donc la différence entre le vrai fruit et celui qui lui ressemble beaucoup, et le faux fruit donc? Quelle est la différence? C'est la différence entre la lumière et les ténèbres. Le faux fruit est caractérisé par un devoir. Je dois faire quelque chose, je dois me comporter comme ça. Alors que le vrai fruit est caractérisé par la joie. Ah, je peux servir mon Seigneur. Ah, j'ai le droit de le suivre. J'ai le droit de lui ressembler. Vous voyez la différence ? Il y a un désir profond, une joie profonde de pouvoir servir notre Dieu. Le faux fruit est caractérisé par une difficulté énorme. Ah, j'arrive. Il y a des moments voilà, où on se rend compte, j'y arrive pas. Et en fait, voilà, c'est vraiment difficile, c'est impossible en réalité. Et de l'autre côté, le vrai fruit est caractérisé par la liberté. Donc je peux le faire, j'ai le droit de le faire, et aussi la capacité. Dieu me rend capable. Dieu met ce fruit en moi. Dieu, avant, quand je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas aimer mes ennemis. Maintenant que je connais Dieu, Dieu crée cela en moi et me rend capable. Certes, ce sera encore avec des lacunes, avec des difficultés, mais on pourra observer cela quand même. Et est-ce que tu observes ces fruits dans ta vie? Matthieu 7, 19 nous met en garde. Tout arbre, et c'est une image ici pour chaque personne, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et à travers ce verset, on se rend compte, il faut vraiment que nous fassions attention. Et que nous nous observions nous-mêmes. Comme le dit aussi l'Écriture à plusieurs reprises, observez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il ne faut pas que nous ayons seulement des membres d'Église, des décisions pour Christ, des professions de foi. Oui, je crois, je suis chrétien. Mais nous devons faire attention à nous-mêmes et aussi à ceux qui témoignent autour de nous que nous sommes croyants et que nous ayons les fruits qui accompagnent le salut. Alors, il faut faire attention ici parce qu'on peut tomber dans un jugement dangereux de commencer à juger les personnes à droite et à gauche autour de nous. Il faut faire très attention parce que notre compréhension est très limitée. La parole dit que nous voyons juste l'extérieur, les façades, mais Dieu regarde le cœur et Dieu voit le cœur. C'est-à-dire que pour les personnes autour de nous, nous serons toujours dans une incapacité partielle pour savoir avec assurance est-ce qu'il est converti, sauvé ou pas. Donc vraiment, il faut faire attention ici de ne pas tomber dans un jugement dangereux, dans un jugement final, on va dire. On le voit par exemple avec Judas. Judas, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, à quoi est-ce qu'il ressemblait, son visage, et quand vous pensez à lui comme ça. Alors sur les peintures, c'est intéressant. Il a souvent un nez crochu, un regard malsain. Il est très pâle aussi, souvent, un teint pâle. Mais en fait, ça, c'est de la fiction. En fait, il ressemblait... On ne voyait pas son côté malsain. Personne des disciples ne se rendait compte qu'il était un hypocrite. Personne. Il le cachait très, très, très bien. Même son amour pour l'argent, sa grande faiblesse, pas qu'une faiblesse, son grand crime en fait, il arrivait très bien à le cacher. Et lorsque Marie versa de l'huile sur les pieds de Jésus, Judas, il dit, mais nous aurions pu vendre cette huile, nous aurions pu donner l'argent aux pauvres. Vous voyez, quand on entend ces paroles, on se dit, waouh, il est spirituel cet homme. Et c'est ce que pensaient les disciples autour de lui. Les disciples ne savaient pas de qui Jésus parlait quand il disait ces paroles « Un de vous va me trahir. » Ah, c'est sûrement celui avec le nez crochu. Non, non, non. On n'a pas cette parole dans la Bible. Ils n'ont pas dit ça. Ils pensaient même, chaque disciple même pensait plutôt « Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Chacun se demandait ça. Chacun des autres disciples. Judas l'a très bien caché devant les disciples, mais il ne pouvait pas le cacher devant Dieu. Donc attention au jugement précipité, parce que nous pouvons nous tromper, et nous ne voyons pas toujours très clair. Mais quand même, en même temps, nous pouvons nous poser la question d'une conversion authentique, lorsque nous observons certains comportements ou certaines affirmations. Parfois même, ça peut paraître très clair. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai rencontré une chrétienne qui me disait qu'elle pensait qu'on peut aussi aller au paradis en suivant le chemin de l'islam. Donc elle se disait chrétienne. Alors, là, c'est quand même plutôt clair, bibliquement, on peut vraiment pas du tout affirmer ça. Mais quand même, là aussi, je peux me tromper. Peut-être qu'elle faisait une blague en disant ça. Mais en même temps, quand même, voilà, on a le droit de se poser quand même la question. Ou alors, par exemple, quand une personne ment à longueur de journée, c'est quand même étrange, alors que la parole dit, ben, en tant que chrétien, aime ton prochain, et l'amour dit la vérité, l'amour ne cache pas. Mais en même temps, voilà, on peut tomber sur un chrétien qui passe à travers des difficultés dans sa vie, et où un péché du passé reprend un peu le dessus, et voilà, où par exemple, le mensonge ressort assez souvent. Donc là aussi, faisons attention. Mais en même temps, nous, c'est bien de se poser la question sur la conversion d'une personne comme ça, parce que nous pouvons de telle manière l'approcher d'une manière saine, et en lui disant, il y a une grande probabilité, en tout cas, quand moi je vois ce que tu fais, que tu n'es peut-être pas croyant. Alors il y a un principe, je pense, qui est biblique ici. Il vaut mieux faire trop que pas assez. Je vais un peu expliquer ce que je veux dire par là. Il vaut mieux que la personne entende trop parler de l'évangile, qu'elle entende trop parler comment un chrétien devrait se comporter, que pas assez. Le danger de prendre cette chose à la légère est trop grand. Si réellement cette personne n'est pas chrétienne, il vaut mieux qu'elle entende trop que pas assez. C'est vrai que c'est quand même sérieux. Le salut, la perdition éternelle, c'est des conséquences très sérieuses. Et donc, faisons attention. Si cette personne n'est pas convertie, cela peut la faire trouver la voie du salut. Si la personne est déjà convertie, ça ne lui fera pas de mal. Elle va être affermie dans sa foi. Elle va mieux connaître la parole, mieux connaître comment un chrétien est censé se comporter pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu à travers sa vie. Cela peut donc vraiment faire du bien. Mais en même temps, et là aussi faisons attention, il y a le danger de mal s'y prendre. On peut par exemple le faire sans être dans l'amour, dans l'amour chrétien. C'est donc vraiment bien de prier longuement avant de se lancer comme ça et de parler à quelqu'un. Et de lui faire part de nos questionnements par rapport à sa conversion. Et là aussi, il faut toujours que nous restions dans l'humilité et que nous reconnaissions que, voilà justement, nous ne voyons pas tout. Et ce n'est pas notre boulot, et ça, il faut vraiment le souligner, ce n'est pas notre boulot de faire le tri. Est-ce que, voilà, les vrais croyants, les faux croyants, le vrai, le faux donc, parce que la parole nous dit que Dieu, à la fin des temps, le fera, cela. Ce n'est pas à nous de dire le mot final. Alors je veux donner un exemple. Comment, par exemple, on pourrait s'y prendre pour dans l'amour, essayer de questionner une personne. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de cette personne qui disait que l'islam est un chemin vers le salut. On peut l'aborder comme ça, donc, en disant, écoute, j'ai entendu cette phrase que tu as prononcée. Et en disant qu'à travers l'islam, on pourrait aussi être sauvé. Et ça me tracasse vraiment beaucoup, beaucoup pour toi. Dans la Bible, nous lisons que Jésus est le seul chemin et qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Je me ferais vraiment du souci pour toi. Et selon le fruit de tes lèvres, ton comportement, il se pourrait que tu ne sois pas réellement converti. Mais que tu aies donc vécu une fausse conversion. C'est possible. Et je te demande, s'il te plaît, de m'écouter, de t'observer et de te tester à la lumière de la Bible. Un chrétien, donc, a cet appel royal de porter des fruits pour son roi. Nous voulons juste rapidement regarder à la parabole du semeur, qui peut aussi nous aider dans nos réflexions ici. En Marc 4, verset 3, pour voir un peu en quoi consiste la fausse conversion. Alors, ce qui est important ici à voir au début, avant que nous lisions le passage, c'est qu'à chaque fois que l'Écriture utilise le mot écouter, c'est comme s'il y a une petite trompette qui sonne. Écouter, ça veut dire écoutez bien. Ce qui va suivre, c'est important. Et c'est la même chose avec le mot voici. Donc écoutez ou voici, une deuxième trompette. Donc une grande vérité va être prononcée, une vérité très importante. Et donc on retrouve ces deux mots dans cette parabole du semeur, même si le voici dans la version seconde n'est pas là, dans la Tob elle y est et dans le grec aussi. Donc voilà, Jésus dit ici, écoutez, voici. Donc gardons ça en tête, c'est vraiment des mots importants qui vont suivre. Lisons donc Marc 4, verset 3, pour ceux qui ont la Bible avec eux. Marc 4 et le verset 3. Écoutez, voici. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Et donc après ce passage, Jésus donne l'interprétation. Et nous savons que Jésus parle ici de l'annonce de l'évangile. La semence qui tombe, c'est l'évangile qui est annoncé. Et donc il y a la semence qui tombe sur différents sols. Et au verset 13, nous voyons que les disciples ne comprennent pas. Donc ce que Jésus leur parle. Et donc ils demandent que Jésus leur explique cette parabole. Et donc Jésus dit au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» En d'autres mots, la parabole du semeur, c'est la parabole clé pour ouvrir la compréhension des autres paraboles. Donc elle est très centrale. Une fois que nous comprenons que lorsque l'évangile est annoncé, il y a des vraies et des fausses conversions, alors les autres paraboles commencent à avoir du sens aussi. Il y a les brebis et les boucs, le vrai ensemble avec le faux, les vierges folles avec les vierges sages, le vrai et le faux ensemble, le mauvais poisson et le bon poisson amassés dans le filet de l'évangile, l'un à côté de l'autre, le bon et le mauvais. La bonne semence est livrée, le bon et le mauvais qui poussent ensemble, l'un à côté de l'autre. La parabole du semeur se trouve aussi en Matthieu 13 et en Luc 8. Et on va un peu regarder donc ces trois passages ensemble, un peu l'harmonie des évangiles, pour voir les six caractères d'une fausse conversion. Alors le premier caractère, on le voit en Marc 4, 5, il y a un résultat immédiat avec un faux converti. Il réagit très vite, de manière très précipitée. Le deuxième caractère, en Luc 8, 6, c'est qu'il y a un manque d'humidité dans la terre. Et Matthieu 13, verset 6, ça va ensemble en fait. Il y a les racines qui ne sont pas assez profondes. Donc l'humidité et les racines qui ne sont pas assez profondes, donc ça empêche la foi de se développer. Des éléments qui empêchent de développer. Et le quatrième élément, donc, c'est en Marc 4, 16, c'est qu'ils reçoivent la parole d'abord avec une grande joie. Un faux converti n'a pas réellement saisi le problème du péché, qui en fait, le péché dans une vraie conversion, quand le croyant donc, se rend compte du péché, il est profondément attristé tout d'abord. Bien sûr, après suit une grande joie, une joie profonde, mais tout d'abord, il y a une profonde, profonde tristesse qui se monte par voilà, ce côté « Ah, je suis pécheur, j'ai un problème devant le Seigneur. » Le cinquième élément, c'est qu'il n'y a pas de fruits. Et on le voit dans la parabole, c'est juste sur la bonne terre qu'il y a les fruits. Et le sixième élément, donc enfin, en Luc 8, 13, ils croient pour un temps, ils sont temporels, ça ne dure pas. Alors pensons à deux salades vertes qui poussent dans un pré, ici dans la Provence. Il y a une grande salade et une petite salade qui poussent l'une à côté de l'autre. Le soleil tape dessus, sur les deux. La grande plante meurt, asséchée, et la petite se porte plutôt bien. Elle survit. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors il faut regarder pas que à la surface, il faut regarder sous la terre. Et quand on regarde sous la terre, on se rend compte que la grande salade avait des petites racines et que la petite salade avait des longues racines. Et vous pouvez donc pomper l'eau dont elle avait besoin. C'est donc les rayons de soleil qui révèlent ce qui est sous la terre, ce qui est caché aux yeux. Et dans le spirituel, c'est pareil. Les rayons du soleil, c'est quoi? C'est ce que les textes nous disent. C'est la tribulation, Matthieu 13, 21, la tentation, en Luc 8, 13, et la persécution, en Marc 4, 17. En bref, c'est les difficultés qu'on rencontre un chrétien. Et ces trois choses révèlent en fait ce que personne d'entre nous ne peut voir. C'est la condition du cœur de la personne qui confesse être convertie. Et la pire des choses à faire, c'est de prendre cette plante, de la mettre dans un placard, de l'enfermer, et de, comme ça, essayer de la protéger. Non, il faut l'exposer au soleil. Et c'est la même chose dans le spirituel. La pire des choses à faire, c'est de protéger les chrétiens de la tribulation, la tentation, la persécution, parce que les rayons du soleil vont l'amener à grandir, vont l'amener à révéler sa vraie nature. N'ayons donc pas peur, ni pour nous-mêmes, ni pour les chrétiens autour de nous, s'ils sont dans des défis dans leur vie, s'il y a des rayons de soleil perçants dans leur vie, dans nos vies, et n'essayons pas de fuir la difficulté, n'ayons pas peur, c'est Dieu qui utilise ces difficultés pour nous montrer, en tant que chrétiens, que nous sommes sauvés et enfants de Dieu. Si aujourd'hui une persécution tombait sur l'Église en France, en Europe, donc des rayons de soleil perçants, il y aurait deux effets positifs. Le premier effet, c'est la purification de l'Église, des faux croyants. Et la deuxième, c'est que ça révélerait l'erreur de la méthode d'évangéliser qui est la plupart du temps utilisée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous observons une tragédie. C'est la tragédie d'utiliser des mauvais moyens, des mauvaises manières d'apporter le message. Cette méthode fait que beaucoup de personnes pensent être devenues croyants, alors qu'elles ne le sont pas. Et justement que beaucoup de personnes ne vont en réalité jamais porter ces fruits que porte un vrai converti. Et voici le message, et je viens de l'entendre à un mariage il y a plusieurs semaines et aussi hier. Donc c'est le message qu'on entend souvent. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Juste laisse Jésus être ton sauveur. Dieu t'aime. Accepte-le en lui demandant pardon pour le péché. Et il te donnera la vie éternelle, il te donnera une vie magnifique. Est-ce que vous voyez le problème? Ce n'est pas l'évangile en réalité. Qu'est-ce qu'un non-chrétien va penser quand il entend un tel message? Il va penser, ah moi aussi, j'ai un super plan pour ma vie. Ah moi aussi, je m'aime beaucoup. Tout va bien alors, tout va bien. Vous voyez, ça le caresse dans le sens du poil. L'évangile ne dit pas que Dieu voudrait nous donner une super vie ici sur terre. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Affirmer ça, c'est en fait le début de l'évangile de prospérité. Quel était le plan de Dieu pour Étienne? Dieu l'a sauvé. Dieu l'a converti. Il a servi pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, en tant que diacre à Jérusalem. Puis peu après, il a été lapidé. Il a été tué. Être lapidé, est-ce que c'est un plan merveilleux aux yeux du monde? C'est sûr que ce n'est pas le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, mais ça peut être le plan de Dieu pour un chrétien. Ce que Dieu veut donner en réalité, c'est une vie qui rendra honneur à Dieu. Et il y aura beaucoup d'épreuves, ça la parole nous le dit, il y aura beaucoup de difficultés, mais Dieu sera là. Et Dieu t'accueillera à la fin, quand tu rentreras à la maison, quand tu rentreras au paradis, il t'accueillera chez lui. Alors le message moderne dit que tu as tout, tu as une voiture, tu as une maison, tu as assez à manger, tu as une télé, mais ce qui te manque encore, c'est Jésus. Non, Jésus n'est pas la cerise sur le gâteau. Jésus est ou alors tout, ou alors il n'est rien pour toi. Paul a dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Le deuxième problème dans ce faux évangile, c'est qu'il n'y a aucun mot sur le péché. Tout à l'heure, vous avez peut-être entendu quand même que le mot « péché » était là, mais c'est juste un mot qui est balancé comme ça, qui n'est pas du tout expliqué dans sa conséquence tragique. Donc il y a en fait la capacité de faire le bien dans cet évangile-là, de se convertir. Pourtant, la Bible dit que nous sommes incapables de plaire à Dieu par nous-mêmes. Il n'y a donc aucun mot sur le problème infini que représente le péché, sur le jugement dernier, sur la punition, sur l'enfer, sur les raisons pourquoi l'homme devrait se repentir. Et comme ça, suite à ce faux message, il y a beaucoup de personnes qui croient se convertir, qui croient faire une décision pour Christ, entre guillemets, la décision. Et alors, comme on ne parle plus du vrai problème, le péché donc et sa conséquence tragique, il faut inventer une nouvelle raison pourquoi il faudrait devenir chrétien. Vous voyez, on n'a plus de raison. La raison biblique, c'est voilà, il faut que tu sois sauvé. Maintenant, la raison, c'est Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Et comment deviennent-ils chrétiens, ces personnes? On leur demande de prier une prière que nous ne trouvons nulle part dans les Écritures, la prière de conversion. Est-ce que Jésus a dit cela? Voici, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, qui veut prier la prière et m'accepter dans son cœur? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, repentez-vous et croyez en le Fils de Dieu. Et après, quand des personnes qui ont fait ces pas-là ont des doutes sur leur salut, comment est-ce qu'on leur répond très souvent? La réponse très souvent, c'est « Mais est-ce que tu as bien prié la prière ?» Et si la personne répond « Oui, oui », alors le conseiller dit « Alors, c'est Satan qui te fait douter. » Vous voyez le côté tragique et vraiment problématique de cette théologie non biblique. Avec le temps, le faux converti va retourner à ses joies mondaines. Il n'a pas été crucifié avec Christ, il n'est pas uni à Christ, il va tourner le dos à Christ. Alors est-ce qu'un chrétien ne pêche pas? Bien sûr qu'il pêche. Et nous le voyons aussi, par exemple, quand nous regardons le fruit de l'esprit, nous ne sommes pas toujours en tant que chrétiens dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Mais c'est quand même quelque chose que Dieu a placé en nous, qui est quand même là et qui grandit lentement, peut-être doucement. Des fois, il y a de la décroissance, on va dire. Mais après, ça reprend et ça croît lentement, doucement. Est-ce que tu mettrais de l'engrais sur une plante qui manque de terre, de racines, qui est en train de mourir? Est-ce que ça aidera une plante qui n'a pas assez de terre? Non. Elle a d'abord besoin de terre. Elle a besoin d'être transvasée. Le faux n'a pas besoin de l'engrais du conseil. Donc par exemple, de passer beaucoup de temps avec ces personnes-là et d'essayer de les conseiller, de leur dire « Ah oui, tu dois aller à l'église, tu dois lire la parole. » On peut perdre beaucoup de temps comme ça. Donc il n'y a pas besoin de conseils pour la vie pratique. Non, cette personne-là a besoin de se convertir, a besoin de se repentir. Et pas, elle n'a pas besoin d'entendre des bons conseils. Et si tu es là ce matin et si tu te rends compte que tu es dans cette mauvaise terre, que tu ne portes pas de fruits pour Dieu, Dieu peut te changer. Dieu peut changer ta vie. Il peut te transvaser. Ce que toi, tu ne peux pas faire, il peut le faire pour toi. Cherche sa face. Cherche-le lui. Va dans la prière et supplie-le de te transvaser, de te sauver. En 1 Corinthiens 1, 27, il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Dieu veut que nous, qui sommes faibles, les choses folles du monde, que nous portions des fruits pour se glorifier à travers nous. Dieu veut que nous fassions ça. Et quel honneur que Dieu nous ait choisis pour atteindre son but sur cette terre. Quel honneur de faire partie de ceux qui peuvent lui donner honneur, qui peuvent lui donner gloire. Quel honneur, quel grand honneur, n'est-ce pas ? Un chrétien a donc cet appel royal de porter des fruits pour son roi. La parole nous le montre aussi clairement dans d'autres, à beaucoup d'endroits, mais aussi en Jean 15, verset 5, où la parole dit, où Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » John Newton était un homme qui a vécu au XVIIIe siècle. Il était marin et son métier, c'était de transporter des esclaves dans des bateaux. Et il a fait un peu le compte, il en a transporté 20 000 durant sa vie. Un jour, il est devenu chrétien et après quelques temps, il a arrêté son métier. Et ces mots, peu avant sa mort, sont très intéressants. Et ces mots, c'est ceci. Je n'étais pas ce que je devais être. Je n'étais pas ce que je devais être. Je ne suis pas ce que je veux être. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas ce que j'étais. Et oui, c'est vrai, un chrétien est quelqu'un avec une vie changée. Et vous voyez, un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait. Il a beaucoup de lacunes, il a beaucoup de faiblesses, il a des fautes qu'il commet et qu'il commet encore. Mais il est quelqu'un de changé. Il a expérimenté l'évangile qui est une puissance qui change l'être humain. Gardons-nous de mettre le poids sur notre confession de foi. Donc oui, moi je suis chrétien. Gardons-nous de mettre le poids là-dessus. Gardons-nous aussi de mettre le poids trop sur une vie changée, c'est-à-dire de dire « Ah oui, Dieu a changé, donc m'a changé, je vis une vie sainte, maintenant tout va bien. » Bibliquement, il faut que nous mettions notre confiance tout d'abord en une chose, et c'est en l'Évangile. Il ne faut pas que nous mettions notre confiance en nous-mêmes. Bien sûr, ça nous aide de voir que Dieu nous a changé, mais avant tout, notre espoir ne repose pas en nous, mais en Dieu lui-même et ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Ben, notre verset le montre bien. Il est mort à notre place pour que nous lui appartenions à lui. Un chrétien est tout d'abord quelqu'un à qui quelque chose est arrivé, quelque chose de magnifique. Vous avez été mis à mort. Dieu a fait ça. Et vous appartenez à un autre. Dieu nous a tirés des ténèbres, nous a arrachés des ténèbres. Et ça, c'est l'Évangile. Dieu a agi. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous. Dieu a agi. Et donc, quelque chose de magnifique nous a été offert en tant que chrétiens. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes quelqu'un de différent. Nous avons été mis à mort Et nous sommes maintenant la possession du Très-Haut, de Dieu lui-même. Donc un chrétien ne s'efforce pas à produire les fruits. Dieu les crée en lui. Dieu les place en lui. Et sans l'aide de Dieu, le chrétien ne peut rien faire. Et en Dieu, nous avons tout, réellement tout, le pardon, la paix, la vie nouvelle, une vie changée, et une vie pour vivre justement à sa gloire. Et donc il est digne de recevoir notre louange, notre adoration, parce qu'il nous a sauvés, et il nous garde dans la foi, et dans cette foi, il nous aide à faire des œuvres pour lui. Amen.